J'avais été envoyé aux Galapagos avec l'Orstom, qui est aujourd'hui l'Institut de recherche pour le développement, donc grand institut de recherche public, hein, et la Fondation Charles Darwin. On appelle la Fondation Charles Darwin, donc c'est cette institution internationale fondée en 59 en même temps que le Parc National des Galapagos, qui a installé une base scientifique internationale aux Galapagos au début des années 60, et qui, donc, est un organisme international, c'est pas une ONG, qui avait demandé à l'Orstom, dans le cadre de leur partenariat en Équateur, une étude sur les migrations de populations provenant d'Équateur continental vers les Galapagos. Un phénomène qui se développe à l'époque, on est au début des années 90, et qui pose problème. Les naturalistes, et je leur ai bien reproché, ont une conception des affaires humaines de type naturaliste, c'est-à-dire qu'en fait, les migrants, c'est une population animale qui prolifère dans un écosystème fragile. Voilà, en gros, c'est ça. Il faut limiter les migrations. Bon, certains étaient encore plus extrémistes en disant bon, il faut virer ces gens-là. En tout cas, il faut avoir des informations scientifiques là-dessus. Donc, l'Orstom m'envoie, à la demande de la Fondation Darwin, aux Galapagos pour étudier les migrants. Sauf qu'il n'y a pas marqué « migrants » sur le front des gens. Donc, j'ai travaillé essentiellement sur des enquêtes. J'ai construit un questionnaire que j'ai essayé, etc. Et j'ai réussi à faire passer environ 220 questionnaires sur les 4 îles peuplées des Galapagos. Ça, ça a été l'essentiel de mon travail pendant, je dirais, la première année des 18 mois aux Galapagos. Mais j'ai vite compris que ces gens-là étaient venus aux Galapagos d'abord parce qu'ils y trouvaient du travail. Et ils y trouvaient du travail dans quoi ? Dans le tourisme, en plein boom. Donc, je mets en place une énorme enquête sur le tourisme. Quand je dis énorme, c'est qu'on a recueilli plus de 2000 questionnaires sur plus d'un an. Des questionnaires traduits en 4 langues, de façon à ce qu'ils soient facilement remplis par les touristes. Plus des entretiens, évidemment, auprès des entrepreneurs de tourisme, comme auparavant auprès des commerçants. Et en étudiant le tourisme, je me suis dit, mais en fait, putain, le tourisme, il est complètement lié à la conservation. S'il n'y avait pas eu de conservation de la nature, s'il n'y avait pas eu toute cette publicité autour du parc national des Galapagos, sanctuaire animalier et tout ça, il n'y aurait jamais eu autant de touristes. Donc je me suis mis à travailler sur la conservation. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pris comme objet d'étude mon commanditaire. Et ça s'est très mal terminé. Ça s'est très mal terminé parce que, alors donc j'ai fait des enquêtes auprès du personnel de la Fondation Darwin, scientifique ou pas, auprès des gardes-parcs et personnel administratif du Parc National des Galapagos. À la fin, j'avais un super tableau. J'avais la population, les touristes, la conservation. Et on me disait au départ, le problème c'est les migrants. Et en fait, moi j'ai renversé totalement le truc. Je dis en fait, il y a des migrants parce qu'il y a du tourisme, il y a du tourisme parce qu'il y a de la conservation. Donc ça veut dire que votre conservation, elle est mal foutue, quoi, puisqu'en fait, elle se traduit. Et c'est là que j'ai eu l'idée d'ouverture, parce qu'elle se traduit par une ouverture de plus en plus large des Galapagos. Okay. Donc mon bouquin, il s'appelle « Conservation contre nature ». Donc c'est dire que j'étais quand même critique sur la conservation menée aux Galapagos, qui pourtant était déjà considérée comme la conservation à l'échelle mondiale. Bon, ça m'a valu d'être expulsé des Galapagos. Enfin bon, il y a eu un certain nombre de... Après le scandale qu'il y a eu en 94, y compris dans la presse et la télévision nationale équatorienne, ouais, un jeune scientifique français dénonce la Fondation Darwin, alors qu'en fait je dénonçais pas que la Fondation Darwin, mais le système du tourisme. Il y a eu des entreprises, les plus grosses entreprises de tourisme équatoriennes ont porté plainte contre moi. Donc en fait j'ai dû non seulement partir des Galapagos, mais ensuite partir de l'Équateur plutôt que prévu. Mais effectivement, ces parcs nationaux, bien sûr que c'est une modalité de mondialisation géographique, bien sûr. Il y a un modèle clair, hein, c'est le modèle américain. En 1872, Yellowstone, précédé par le parc du Yosemite, mais qui était un parc au niveau de l'État de Californie. Bon, et puis ensuite, ce modèle s'est diffusé sur la Terre. Donc c'est une modalité de conservation de la nature. On peut critiquer, moi j'ai été très critique hein, du modèle de conservation des Galapagos, qui est pourtant un modèle emblématique à l'échelle mondiale. C'est un des points chauds de la conservation dans le monde, y compris dans la formation, dans la renommée. C'est quand même le seul endroit où on a une base scientifique internationale depuis 60 ans qui bosse là-dessus, quoi. Avec bon, donc c'est vraiment le top du top en matière de conservation. Et pourtant, il y a beaucoup à critiquer. Je ne vais pas le faire maintenant, c'est pas le sujet. Mais pour autant, je pense que dans la situation dans laquelle on se trouve, c'est-à-dire d'urgence absolue d'un point de vue écologique et perte de diversité biologique, je pense que malgré toutes les critiques que l'on peut adresser à la conservation et qu'il faut bien sûr améliorer beaucoup de choses, les parcs nationaux sont indispensables. Les parcs nationaux, les aires marines protégées sont indispensables. Et on voit la différence. Mais en tout cas, effectivement, les parcs nationaux sont bien un aspect de la mondialisation géographique. L'isolement a toujours favorisé la diversification. Depuis Darwin, au moins, les naturalistes sont intéressés à comment se forment les espèces. Le darwinisme, en fait, c'est un évolutionnisme géographique. C'est expliqué par l'espace la formation de nouvelles espèces. Et aujourd'hui, on sait que le principal mode de formation d'une nouvelle espèce est appelé la spéciation géographique. Mais par spéciation géographique, ils entendent une espèce qui se forme par isolement écologique. L'exemple emblématique de spéciation géographique, c'est celui qu'a remarqué Darwin aux Galapagos, hein, enfin, en tout cas qui lui ont posé des questions. Avant d'arriver aux Galapagos, le Beagle, au bord duquel il était, avait longé les côtes de l'Amérique du Sud, notamment du Chili et du Pérou, et il avait remarqué au Pérou, par exemple, une espèce d'oiseau moqueur. Tout y trouve des oiseaux moqueurs aux Galapagos. Et les becs, pas tout à fait le même. Il y a eu formation de 13 espèces de pinsons endémiques, de 4 espèces de moqueurs endémiques au Galapagos, parce que cet archipel est séparé par 1000 km d'océan du continent américain, donc il est en état d'isolement écologique, avant l'intervention des hommes bien sûr, et que seuls quelques animaux, quelques plantes ont pu franchir cette distance, et une fois établis sur place, ont dû s'adapter à un nouvel environnement, premièrement, et deuxièmement, à évoluer en isolement. Et ces deux facteurs de l'adaptation à l'environnement de ces organismes arrivés sur ces îles isolées, et donc l'isolement dans lequel se retrouvent ces organismes, vont expliquer la formation de nouvelles espèces. L'isolement au sein d'un archipel, il est repris au sein même de l'archipel, entre les îles, ce qui explique qu'il y ait 13 espèces. Alors, il y a une autre type de spéciation, donc Saint-Patrick, qui, elle, consiste à se distinguer par niche alimentaire au sein d'un même environnement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir déplacement des organismes, simplement une spécialisation. Et c'est ce qui explique, par exemple, au Galapagos, on a des pinsons dans le même type d'environnement qui n'ont pas bougé, mais qui ont des becs différents parce qu'ils exploitent différents aliments. Les graines dures, les graines molles, le haut des cactus, les insectes au sol, voilà. Et bon, en fait, ce qui unifie ces différents processus de diversification, qu'ils soient culturels ou biologiques, c'est l'espace terrestre. Il y a des invariants, comme dirait Lévi-Strauss, il y a des invariants spatiaux. Ces invariants spatiaux qui s'appliquent aussi bien au processus de diversification biologique qu'au processus de diversification culturelle et linguistique, il y en a deux qui sont importants. Primordiaux, c'est l'isolement. Et deuxièmement, l'adaptation à l'environnement. L'adaptation passive dans le cas des organismes, l'adaptation active dans le cas des populations humaines. Ça nous apprend que le monde est beau, et il est beau parce qu'il est divers, d'un point de vue naturel aussi, évidemment. Il est en menace de perte de cette diversité. Nos smartphones sont pleins de métaux, de terres rares, qui elles-mêmes provoquent des ouvertures géographiques. Pour le coup, on va creuser au fin fond de la forêt congolaise, on détruit des milliers de vies humaines, et aussi des milliers d'hectares de forêts tropicales humides, et donc de diversité biologique, pour nos téléphones. On revient sur la conservation de la nature à travers les aires protégées, quoi. Voilà. Donc, l'idée, ça serait que l'ensemble soit protégé et qu'à la limite, qu'on ait l'inverse, quoi. Qu'on ait quelques petites zones où on peut polluer, de toutes les façons possibles parce que, n'est-ce pas, c'est bien indispensable. Bon, ok. Mais spatialement, géographiquement, on devrait faire l'inverse, ouais. En Australie, il y a beaucoup de touristes asiatiques, pour certains d'entre eux très technologiques, très objets. Et donc c'est ça en fait le problème, c'est que les gens, ils ne voient plus, dans le cas extrême, ils ne voient plus qu'eux-mêmes. Dans le cas le plus fréquent, ils ne voient plus. Un autre exemple, en avion, je vous disais tout à l'heure que j'aime bien regarder par le hublot la Terre vue du ciel, enfin, c'est fantastique. Mais pas que pour un géographe, ça doit être fantastique pour n'importe qui. Or, je constate qu'il y a très peu de gens, en fait, dans un avion qui regardent par le hublot. Alors qu'en fait, c'est pas comme si on prenait le train ou la voiture, quoi. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de survoler l'Australie ou la Cordillère des Andes. L'homme ne regarde plus, parce qu'en fait, la Terre ne l'émeut plus, quoi. Et je pense que c'est ça un très gros danger qui nous guette, c'est que on est la coupure entre justement l'humanité et la Terre, ça se manifeste à travers ce genre de comportement. On développe de façon exponentielle ce qu'un sociologue du tourisme, il s'appelle Eric Cohen, avait théorisé il y a 50 ans, cette notion de bulle environnementale. En fait, on est de plus en plus dans des bulles environnementales, individuelles ou collectives, qui nous coupent effectivement de la terre. Quand on défrichait la forêt du Brésil pour faire place à des plantations de canne à sucre, bon, c'était bien gênant pour la forêt et pour éventuellement les Indiens qui y vivaient, mais ça n'a pas menacé les grands équilibres planétaires. Aujourd'hui, là, on en est aux grands équilibres planétaires, à cause de la profondeur et de l'étendue de nos empreintes, autrement dit, de nos géographies. Quand je parle des nouvelles menaces, les OGM, les nanoparticules, les gaz à effet de serre, les radiations nucléaires, tout ça, c'est des choses qui ont émergé, si on peut dire, au cours du XXe siècle, mais qui aujourd'hui sont des menaces de plus en plus grandes, parce que ça peut menacer, mais de façon définitive, des parties entières de la biosphère, c'est-à-dire de notre habitat. Et contrairement à ce que dit Musk et disent d'autres techno-solutionnistes, non, en fait, on n'a pas d'autres planètes, quoi. En tout cas, ceux qui, pour le coup, iraient habiter sous cloche sur Mars, je leur souhaite bien du plaisir, mais en tout cas, moi, j'ai pas envie d'y aller, et je pense que beaucoup de personnes n'ont pas envie d'y aller, quoi. Donc, c'est ça, en fait, on est en train de détruire notre habitat à l'échelle terrestre, y compris par des éléments invisibles. Et donc, ça accroît, là aussi, la coupure entre notre substrat terrestre, notre habitat terrestre et l'humanité. On fait des trucs, c'est mesuré d'un point de vue scientifique, mais tout le monde continue. Comme si on n'habitait pas, quoi. Comme si on était hors sol et comme si on était complètement artificiel. Bon, déjà qu'on a une intelligence artificielle, mais maintenant, on va avoir un corps artificiel qui se joue des radiations, du plastique, des OGM. Tout ça, c'est pas pour nous, quoi. C'est complètement fou, quoi.
C'était la mondialisation géographique, second épisode, l'isolement. avec le géographe Christophe Grenier. Réalisation Aurélien Frances, une production de Silence Podcast.